Bonsoir à tout le monde. C'est toujours avec un réel bonheur que je reviens ici. J'aimerais aussi apporter les salutations de mon épouse qui garde un très très bon souvenir. Un très très bon souvenir de son dernier passage ici, mais surtout de la très grande gentillesse. Il ne m'a pas beaucoup parlé du pasteur, mais surtout de la femme du pasteur, qu'il a beaucoup beaucoup honoré. Maman, mamie, que Dieu te bénisse. J'aimerais vous inviter à lire un bouquet de passages avec moi. Premier livre de Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, le seul verset 14. Pardonnez-moi, 1 Samuel 16, le seul verset 13. 1 Samuel 16, 13e verset. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Le second passage, nous lisons dans le premier livre de Samuel, toujours, au chapitre 22. Et là, nous lisons du premier verset au deuxième. 1 Samuel, chapitre 22, du premier verset au deuxième. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Nous progressons et nous allons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1er, le seul verset 10, 2 Samuel 1er, le seul verset 10, l'échange entre David et les jeunes hommes qui avaient prétendu qu'il avait donné la mort au roi Saül. Et il lui relate cet épisode. Je m'approchais de lui, je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui est sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Soulignez bien, j'ai enlevé les diadèmes qui est sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Nous progressons, nous avons deuxième livre de Samuel, toujours au chapitre 8, et nous lisons le seul verset 15. 2 Samuel 8, le seul verset 15. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. David régnait sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Nous terminons avec deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Là, je vais lire quelques portions du 1er au 5e verset, du 12e au 16e, et puis de 26 à 27. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, 1 à 5, 12 à 16 et 26 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uriel et Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et les lendemains. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qui s'avait défendu par de vaillants soldats. Verset 17, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri les Hétiens fut aussi tué. Verset 26 à 27, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. J'ai tellement aimé l'ambiance de la prière de tout à l'heure que j'aimerais aller le plus bref et directement dans le message, afin que, comme je le sens, nous puissions nous replonger encore dans un moment de prière. Mais Dieu m'a mis à cœur ce soir de parler sur le thème « Le parcours d'un roi ». Les parcours d'un roi. J'aimerais déjà d'entrée dire que, alors que j'apporte ce message, j'ai trois publics cibles. J'ai la ferme conviction que quelqu'un au milieu de nous ce soir fait partie de l'un ou l'autre de ces publics. Les premiers publics, ce sont des gens qui veulent aller quelque part, qui ont le désir d'aller quelque part. Le deuxième public cible, ce sont des gens qui sont entrés dans aller quelque part, qui sont dans un processus, qui sont dans une marche. Mais le troisième public cible, ce sont des gens qui sont déjà arrivés quelque part. Ce soir, au travers de ces bouquets de passages, nous allons voir comment, en trois étapes, un jeune homme anonyme est devenu le personnage central et le plus important de l'histoire de son peuple, et même l'un des plus personnages centraux de l'histoire de l'humanité. Cela montre que Dieu peut nous prendre de quelque part et nous amener plus loin. Parlerons trois étapes et nous terminerons avec un avertissement sous forme d'appendice, une mise en garde. Les mots importants dans mon thème, c'est les mots parcours, parcours d'un roi. Les mots parcours cachent trois significations. La première signification qui est dans les mots parcours, c'est chemin à suivre ou suivi pour aller d'un point à un autre. Chemin à suivre ou suivi pour aller d'un point à un autre. Deuxièmement, parcours signifie suite d'étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre un but souhaité et désiré. Une succession d'étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre un but souhaité et désiré. Et troisièmement, parcours veut dire ensemble d'étapes successives qui caractérisent la vie d'une personne. Et le jeune homme anonyme dont j'ai fait mention, qui à la fin du récit devient un roi, a connu trois étapes. Le point numéro un dans son parcours est un point très important, peut-être, qui est le besoin de l'un de nous ce soir ici. Le premier point de départ dans son parcours, c'est la révélation. C'est la communication orale ou écrite d'un fait demeuré jusque-là secret, ignoré ou inconnu. La révélation, c'est aussi le fait de faire prendre conscience à quelqu'un de qui il est réellement, à quoi il est appelé, qu'est-ce qu'il doit devenir. Il est certes à la fin devenu roi, mais avant qu'il devienne roi, il y a eu la révélation. C'était un jeune homme vivant au milieu de sa famille, remplissant les tâches qui lui avaient été accordées par son père, de prendre chaque fois les troupeaux et de les amener quelque part pour aller brouter et pour aller s'abreuver. Un beau jour, lui-même, il ne savait pas ce qui s'est passé à la maison. Dans sa tête, son projet, je suis fils d'un berger, peut-être aussi je deviendrai un berger. Mais il ne savait pas qu'un destin plus grand sommeillait en lui, que lui il ignorait, mais que le Dieu créateur connaissait. Et ce jour-là, alors qu'on vient le chercher en hâte, alors qu'il est en train de garder les troupeaux, il prend le temps de poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas fini de faire manger les troupeaux. Il faut arrêter, on a besoin de toi. Il y a un homme qui est venu et il a besoin coûte que coûte de toi. Et dès l'instant où il entre, Samuel reçoit le message, c'est lui le roi. J'aime une chose, l'huile qui vient de Dieu connaît toujours la tête où l'huile doit descendre. Et à peine il entre, la Bible dit, Samuel est oigné au milieu de ses frères. La Bible n'en parle pas, mais tous les commentateurs juifs disent, chaque fois qu'un roi était oint, une parole était prononcée, Israël, voici ton roi. Comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Du coup, le berger sait qui il est. Le berger sait ce qu'il a appelé à devenir. Il reçoit cela comme un hypercute. Il n'arrive pas à comprendre. Dès qu'il rentre, le prophète dit lui, mets-toi à genoux. J'aime. Il se met à genoux berger, mais il se relève roi. Quand il s'est mis à genoux dans son projet, il sait qu'il est un berger. Mais quand il se réveille, il se relève quelques secondes après, il n'a pas le temps de digérer. Désormais, il sait, le berger ne finira pas berger, le berger deviendra roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une identité en toi qui sommeille, que ton voisin ne connaît pas, ta voisine ne connaît pas, ton grand frère ne te connaît pas, ton mari ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Je prie que Dieu te révèle qui tu es réellement. Ceux qui sont autour de toi ne te connaissent pas. Ils connaissent ta date de naissance, ils connaissent peut-être quelques détails te concernant, mais ils ne connaissent pas tout ce qui est caché en toi. Israël, voici ton roi. Les bergers voient sa vie qui bascule et qui change à cause d'une information. Seigneur, ce soir, donne une information à quelqu'un. Seigneur, durant ces jours, avant qu'on finisse, donne une information à quelqu'un qui ne l'a pas encore. Cette information fait trois choses principalement dans la vie du jeune David et peut faire aussi ces trois choses en nous. Premièrement, cette information lui apporte un savoir qu'il n'avait pas, qu'il est bon de savoir qui on est. Seigneur, aide-moi à savoir qui je suis. Matthieu chapitre 16, verset 18, nous parle aussi de quelqu'un qui ne savait pas qui il était. Certes, il avait répondu à l'appel de Christ quand il a rejoint les autres disciples, mais ce jour-là, Christ l'a regardé et dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Seigneur, dis à quelqu'un ce soir qui il est réellement. Ça lui a apporté un savoir. Combien de fois nous ne nous connaissons pas? Premier livre de Samuel, chapitre 9, verset 20, nous parle aussi d'un jeune homme qui est à la recherche des années de son père et qui subitement a eu des informations les concernant que lui-même ne savait pas. Quand les prophètes les voient, il dit à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qu'il y a en Juda. La royauté sommeillant en lui, mais lui-même ne les savait pas. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne me connais pas. Parce que tu ne me connais pas, ne me méprise pas. Deuxième chose que cette information fait, cette information lui apporte une direction. Désormais, il sait où il va. Désormais, il sait où il va finir. Désormais, il sait ce qu'il va devenir. Ah, j'ai jamais oublié le jour où Dieu m'a parlé concernant mon avenir. Désormais, je ne tâtonnais plus. J'avais un GPS, je savais où j'allais finir. Je savais pas tous les éléments du parcours, mais je savais où j'allais finir. Une direction. Troisième chose que cette information a eu à faire, cette information lui a donné une raison d'être. C'est-à-dire, c'est à quoi sa vie allait servir. Qu'il est bon de savoir à quoi sa vie sert ou va servir. Acte 13, verset 22. Plus tard, l'apôtre Paul relatant cet épisode, il relate les propos qui sont sortis de la bouche des temps. J'ai trouvé David qui accomplira toutes mes volontés. Ma vie désormais servira à être relayée au ciel et d'entendre ce que le ciel va dire et de les accomplir. Je ne sais pas pourquoi vous vivez. Moi, je sais pourquoi je vis. Qu'il est bon de savoir pourquoi l'on vit. Jean-Baptiste, on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il sait, je suis venu pour préparer une route. Il savait. Aide-moi à poser la question à ton voisin ou ta voisine. Tu vis pourquoi? Pour t'habiller? Pour détruire les mariages d'autrui? Pour faire cogner les gens les têtes? Qu'il est bon dans la vie de savoir qui l'on est réellement, ce que l'on va devenir et ce qu'on est appelé à accomplir. Il y a trois choses que j'aime avec la révélation. Premièrement, elle vient lorsque vous avez l'air de tout sauf de ce que vous êtes appelé à devenir. Quand la révélation vient, vous ressemblez à tout sauf à ce que votre vocation vous appelle. J'aime quand Dieu vient et dans un enfant, il voit un roi. Et quand il parle de la royauté à l'enfant, l'enfant a l'air de tout sauf d'un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un roi en toi. Il y a une reine en toi. Et si Dieu dit qu'il y a un roi et une reine en toi, prends conscience de cela. Ne laisse personne te minimiser. Elle vient la révélation lorsque vous avez l'air de tout, sauf de ce que vous êtes appelé à devenir. J'ai en mémoire quand cet homme qui nous a influencés, pasteur Lumonde, moi-même, ainsi que bien d'autres, me parler de ce que Dieu m'appelait à faire. Je me souviens ces jours de 89, il m'a appelé, il m'a tenu et il m'a dit, Roland, Dieu me dit, tu prêcheras l'évangile, tu iras au-delà des mers et des océans. J'ai dit, le vieux est en train de faire la psychologie pour encourager les jeunes hommes. Hein, il sait, j'ai grandi à l'Ozone, dans des endroits compliqués, il veut un peu me booster. Tikanogara, laisse simplement. Mais dans les petits garçons sommeillaient les rois. Quand je revois avec le temps, je dis, Seigneur, merci. Donne-nous dans l'église des gens qui nous disent où nous allons aller. Donne-nous des gens qui nous disent, tu es ceci, voilà ce que tu deviendras. Deuxième chose en rapport avec la révélation, c'est qu'elle vient souvent à un moment inattendu. La météo ne l'annonce pas. Troisième chose que la révélation fait, elle accomplit deux choses attachées l'une à l'autre. Elle change votre regard vis-à-vis de vous-même, mais aussi elle change le regard des autres vis-à-vis de vous. Celui qui se regarde comme un berger dès l'instant où la révélation vient, il se regarde autrement. Même quand il est en train d'amener les troupeaux, il est en train de regarder les brebis, dit Kalatenagoti Kabino. Dans pas très longtemps, je ne serai plus votre maître. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a révélé quelque chose, crois en cela. Crois en cela. Elle change votre regard vis-à-vis de vous-même. Et elle change votre regard vis-à-vis des autres. Et ce que j'aime, c'est que Dieu a envoyé Samuel et dit, ne fais pas la révélation en coulisses. Ne fais pas la révélation en cachette. Fais ça devant les frères. Afin qu'il y ait des témoins. J'aime quand Dieu parle devant les témoins. Parce que le jour où ça s'accomplit, quelqu'un peut dire, j'étais là quand Dieu parlait. Et je m'imagine non seulement lui-même se regarder différemment, mais même ses grands frères ont changé d'attitude. Eliab pouvait dire, il est plus jeune, mais c'est le roi. Shaman pouvait dire la même chose. Seigneur, fais quelque chose pour quelqu'un. Mais par-dessus tout, la révélation vous donne foi en l'avenir. Car désormais, vous savez que vous avez une destination. Vous savez que vous avez un point final dans le futur. Deux groupes de personnes ont plus loin dans la Bible eu les privilèges de la révélation de qui ils étaient. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, nous parle d'un homme nommé Saul de Tarse, qui sera plus tard appelé Paul, et du privilège qu'il a eu d'avoir la révélation de lui-même, et cela par les canaux d'un certain Ananias. Il vient à peine de tomber de son cheval alors qu'il était sur la route de Damas, qu'il voit un homme venir. Et cet homme lui dit, voilà ce que Dieu m'a dit, va dire à cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Quel privilège de savoir qui on est. J'ai rêvé de devenir avocat. Mon père rêvait aussi que je devienne avocat. Il me disait, Roland, j'ai tellement souffert. J'ai parlé plus tard à mon père. Vous savez, les gens qui ont beaucoup souffert à un moment, ils veulent que leurs enfants puissent être leurs copies corrigées. Qu'ils deviennent tout ce qu'eux, ils ont voulu devenir, qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas su. Alors ils pleuraient, disaient, Roland, moi j'ai souffert. Toi, fais ceci, tu vas sauver la famille. Je disais, papa, je ne suis pas le sauveur de la famille. Dieu m'a appelé à faire ceci. Il dit, Roland, je te supplie. J'ai dit, non, voilà ce à quoi Dieu m'a appelé. Vous savez, quand vous ne faites pas ce à quoi vous êtes appelé, vous êtes triste. L'argent ne suffit pas dans la vie. Le bonheur, ce n'est pas tellement dans ce que l'on peut avoir. Le bonheur, c'est être dans ce que Dieu veut que vous fassiez. Matthieu chapitre 4, verset 19, nous parle de deux frères habitués à attraper des poissons. Et auquel Jésus-Christ viendra ouvrir les yeux pour leur dire qui ils étaient réellement. Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais la révélation, lorsqu'elle vient, elle suscite des fois des questions sans réponse. Autant elle vous réjouit, autant elle vous rend aussi anxieux. Car la plupart des fois, la révélation nous parle aujourd'hui d'un demain quelquefois trop grand pour nous. Inaccessible à nos yeux. J'aimerais te dire, si ta révélation te parle de quelque chose de trop accessible, doute que ce soit Dieu. Quand la révélation vient de Dieu, la plupart des fois, il nous faut la foi pour accepter cela. Car la plupart des fois, elle apparaît trop grande, trop élevée, inaccessible. Luc chapitre 1er, verset 34 et 38, cette jeune fille reçoit cette révélation qu'elle sera appelée bienheureuse. Et qu'elle allait devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Écoutez sa réaction. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Comment? Mais j'aime, après avoir discuté, elle dira à la fin, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon la, la parole du Seigneur. Avant d'éclore ces points sur la révélation, j'aimerais dire à quelqu'un ces deux choses. La première, c'est qu'il n'y a rien qui plaît à Dieu plus que lui faire confiance en rapport avec ce qu'il a dit ou déclaré. Il n'y a rien qui plaît à Dieu. Quelquefois, il nous faut dire oui sans trop comprendre. Marie a dit, je ne comprends pas tout, mais qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. J'aime quand dans Actes 27, verset 25, l'apôtre Paul est dans ses bateaux. Et écoutez ce qu'il déclare, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Donne-moi quelqu'un ce soir qui croit, là où tout le puissant n'est pas croire. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que quand tu vois Dieu prendre les risques de la publicité par rapport à ce qu'il t'a dit, prends aussi les risques de croire en lui et d'adhérer. Ésaïe 44, verset 7, et Ésaïe 48, verset 3 dit, « Qui a comme moi, et c'est Dieu qui parle, fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Qui a comme moi annoncé l'avenir et ce qui doit arriver ?» 48, 3, il dit, « Dès longtemps, je fais les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi, elles se sont accomplies. » Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul rappelle quelque chose à son fils dans la foi. Écoutez ce qu'il dit. Ne néglige pas les dons qui ont en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Timothée n'avait rien ressenti. Paul s'est simplement levé. Il a dit, Timothée, de cet instant, tu as reçu les dons des prophéties. Il n'a rien senti. Mais une prophétie est sortie en public. Il dit, crois en cela. Dieu l'a dit, tu l'as. Ouin. Au milieu de ses frères. Ça, c'est le premier point de départ du jeune roi, la révélation. Je prie que quelqu'un ce soir dise, Seigneur, dis-moi où je dois aller. Le deuxième point dans le parcours de ce jeune roi, c'est la formation. Révélation, tu sais qui tu es, où tu dois aller, et puis il y a la formation. Parlant de formation, je vais parler des enseignements destinés à donner à une personne les connaissances et les pratiques nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité. Parlant de formation, j'aimerais aussi parler d'une éducation morale ou intellectuelle qu'une personne reçoit, qui est comme un équipement en vue d'une tâche à remplir. Formation, c'est aussi développement par la transformation d'une personne. Et là, il y a des choses enlevées et des choses ajoutées. J'aimerais dire un certain nombre de choses importantes en rapport avec la formation. Et 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2, c'est le point de départ de la formation. La révélation a été reçue. Voilà ce que tu dois être. Et Dieu laisse qu'une série d'actions commence. Saül commence à pourchasser le petit David. Et il est obligé de fuir et il se cache à un endroit où il ne fait pas beau être, caverne d'Adullam. Et retenez ces choses que je voudrais dire en rapport avec la formation. La première, la formation dure plus que la révélation. La révélation peut durer quelques secondes, mais la formation dure des mois et quelquefois des années. Ce que tu sais en quelques secondes, pour le devenir, il faudra du temps. La révélation de David a duré peut-être 30 secondes. Israël, voici ton roi. Mais la formation a duré 13 ans. Deuxième chose par rapport à la formation, elle peut donner l'impression de vous éloigner de la révélation, mais ne vous éloigne jamais. Des fois, la formation vous fait passer par des chemins. Vous avez l'impression que vous allez à l'opposé de la révélation. Mais j'aimerais dire, Dieu est capable d'écrire droit, mais avec des lignes courbes. Dieu est capable de vous amener au nord en allant au sud. Mais vous êtes tellement intelligent quand il vous amène, vous lui dites, Seigneur, ta boussole est normale. Le nord, c'est là. Il dit, je sais où je t'amène. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, laisse Dieu t'amener où il va. Troisième chose par rapport à la formation, elle peut vous sembler incompréhensible. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas le pourquoi Dieu vous fait passer par certaines choses, par certains chemins. Mais lui, il le fait. Et des fois, il le fait sans explication. J'aime Jean chapitre 13, verset 7. Christ est en train de laver les pieds de ses disciples. Pierre semble se rebeller. Jésus-Christ lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. C'est-à-dire au moment où j'agis, la compréhension est absente. Mais plus tard, la compréhension va rejoindre et tu comprendras, ah, il a fallu ça pour qu'on en arrive là. Laisse Dieu te conduire comme il te conduit. David a l'impression qu'il ne fait que vivre des choses qu'il ne réalise pas. Dieu ne l'avance pas en vain, même être le chef de 400 personnes, sans loi ni morale. Dieu est en train de les former. Quatrième chose par rapport à la formation, elle est nécessaire, car elle vous rend capable d'être prêt pour la prochaine étape. Si Dieu vous fait passer de la révélation à l'étape de l'accomplissement, vous manquerez beaucoup de choses. Dans Psaume 89, au verset 20, quand Dieu parle par la bouche des Éthans, écoutez ce qu'il dit. « J'ai prêté mon secours à un héros et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. » Le terme « élevé » là veut dire « éduqué ». J'ai éduqué, j'ai formé, j'ai travaillé quelqu'un. Je prie ce soir, Seigneur, travaille encore quelqu'un. S'il pleure et il estime que c'est dur, Seigneur, écoute ses larmes, mais continue. J'aimerais le dire à la manière de Kino Ankolo, Nyongaye. Seigneur, serre-les encore davantage. Dans tout le cas, la fin, ça sera pour son bien. Quelqu'un ce soir est en train de crier, Seigneur, c'est trop. Dieu dit, il en reste encore quelques étapes. Le Seigneur ajoute les étapes. Si tu as envie de pleurer, que c'est trop dur, je te passerai mon numéro de téléphone. On va pleurer ensemble au téléphone, mais Seigneur, n'arrête pas. Cinquième chose par rapport à la formation, on ne voit et ne comprend sa nécessité qu'après coup. Le plus souvent, les formés n'aiment pas et n'apprécient pas la formation pendant qu'elle se passe. Souvent, les formés aiment les résultats de la formation, mais ils n'aiment pas les processus par lesquels il faut passer. Mais je me redire aussi, c'est Dieu qui détermine la longueur de la formation. Plus vous êtes appelé à des grandes choses, plus la formation sera longue et difficile. En chez nous, à Kinshasa, quand on veut prendre un gendarme, nous les Kunons les appelons Lizanda. On te prend, on t'amène à Matete, deux, trois pompages, et puis on te donne la tenue, vas-y. Mais si on veut faire de toi quelqu'un de la DSP, tu auras l'impression que tu vas mourir à Kibomango. Deux montagnes et un fil, et tu ne vois rien. Toi-même, tu te dis, Nayego Salaniniao. Que suis-je venu faire ici? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est en train de te former. Daniel chapitre 1, verset 5, ainsi que verset 19, nous parle de la vision du roi de Babylone. La Bible dit, il voulait les élever pendant 3 ans, au bout desquels il serait à son service. Il avait une vision, j'aimerais faire de quelque chose, mais lui-même connaissait les temps, il faut 3 ans. 3 ans de input, de output. 3 ans. 3 ans. Toi, peut-être pour que Dieu t'amène, c'est 4 ans et tu n'es qu'à 2 mois. Donc, il te reste encore. Fais les calculs si tu es fort en arithmétique. Quand toi, tu es en train de pleurer, là, tu as l'impression que c'est le bout. Sur 36 mois, tu n'as que 2. Il te reste 34. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est nécessaire, ajoute encore. Les élever pendant 3 années au bout desquelles il serait à son service. Écoutez ce que la Bible dit au verset 19. Les rois s'entretaient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Et ils furent admis à son service après 3 ans. 3 ans. J'ajoute encore ce principe en rapport avec la formation. Seuls et ceux qui la refusent au moment où on doit la voir, c'est-à-dire avant d'assumer les responsabilités et d'occuper des fonctions, apprendront les mêmes choses, mais au prix fort, pendant qu'ils occuperont les responsabilités. Alors vous avez le choix entre apprendre avant et apprendre après. La préparation alors qu'on occupe les fonctions est une préparation coûteuse. Vous allez commettre des erreurs en occupant un poste, et les gens verront vos erreurs, et les gens vont se moquer de vous. J'ai toujours béni Dieu pour les privilèges qu'il m'a donné toutes ces années de travailler dans l'ombre. Un moment, je posais la question, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses tout le temps derrière? Ceux de ma génération commençaient à exercer des grandes responsabilités. J'ai quitté Kinshasa en 97 au mois de janvier pour aller à Nairobi, pasteur assistant. Je suis là-bas, je reviens, mon ami pasteur Kali, pasteur titulaire d'une église à Bandal. Il ne dépend de personne désormais, il ne demande la permission à personne. 3 ans après, mon jeune frère Rémi, le petit Rémi Djunga, pasteur titulaire. Et moi toujours, pasteur assistant. On a eu même difficile à m'appeler pasteur assistant. On m'appelait d'abord assistant au pasteur. Donc je ne suis pas pasteur, mais j'assiste les pasteurs. Je me souviens une fois, quelqu'un m'a appelé pasteur assistant. Les pasteurs vraiment m'ont crié, tu n'es pas pasteur. Dis, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteur. Et il me garda à l'église. Sur 10 invitations que je recevais, 9,9, il disait non. Il écrivait avec un stylo rouge. Non. Et il me garda à l'église. 4 activités, prière d'ouverture, prière de clôture, présentation des enfants et communiquer. De tel jour, un jour, quelqu'un m'a appelé et dit, toi, tu as reçu l'appel des prières d'ouverture ou quoi? J'avais des cahiers pleins de méditations, mais pas d'endroit pour prêcher. De temps en temps, même dans les prières d'ouverture, je faisais sortir quelque chose pour que je n'éclate pas à cause d'un trop-plein. Les révélations, je les lâchais dans les prières d'ouverture. Seigneur, merci pour la quintessence des psaumes 22. En 30 secondes, une prédication est lâchée, comme ça je respire un peu. Mais plus tard, j'ai dit, waouh, il savait. Aujourd'hui, je dirige une église. Ceux qui sont à mes côtés sont épatés, quelquefois par les calmes que j'ai dans des grandes situations. La manière dont je solutionne certains problèmes. Il y a 3 ans en arrière, un jeune homme à l'église a lâché un courrier. On m'a dit, il y a plus de 150 exemplaires. 8 paragraphes. M'injuriant. Et j'ai vu les membres du comité qui sont venus fâchés. Pasteur, tu as lu la lettre. Il faudra dimanche prochain crier sur ces jeunes hommes, les maudire du haut de la chair et dire aux gens de ne pas suivre ces courriers. Je leur ai dit, on ne va pas le faire. Il dit, mais pasteur, tu vas l'entêter. Je dis, j'ai vu quelqu'un subir les mêmes choses. Et je l'ai vu agir et ça a marché. Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Que des gens qui s'improvisent à un poste, ils n'ont jamais été derrière quelqu'un, les voir faire. Qu'il est triste d'occuper une fonction et commencer à appeler quelqu'un. Makamboye, comme il est, qu'on a ça la nini. Il y a eu ça, j'ai fait quoi? Sois au pied de quelqu'un. Vois les être et faire et tu vas apprendre. Je me suis souvenu qu'en 94, quand j'étais assistant au pasteur, un homme qui était proche du pasteur venait lui dire, on est en train de dire que la ceinture que toi tu portes, c'est de la magie. Elle avait une belle ceinture avec une pierre en émeraude, avec une montre. Il a dit à peu près combien de personnes en parlent, 200, ils en parlent trop. Et si 200 personnes, chacune peut parler à une autre personne, ils peuvent en parler en combien? Il dit 3. Donc à la fin, ça peut être combien? 600. Il dit, toute l'église, on est à combien? On est à 4000. Donc le pasteur Vernon dit, ok, donc 3400 ne sont pas au courant. Il dit, alors toi tu me pousses à venir démentir. Les jours où je viendrai démentir, au lieu de 600, 4000 seront au courant. Et j'ai vu quelqu'un être fait. J'ai dit, ces courriers, on ne va rien faire. J'ai demandé ces courriers, s'il y a 150, chacun peut aller par là combien? Mais 3, j'ai dit, ça fera 450. On est à combien? On est à 5000. J'ai dit, plus de 3500 ne sont pas au courant. 6 mois, dimanche prochain, il y a quelqu'un qui a écrit un courrier. Les tangos, photocopier les ngambo. Fais-moi la photocopie. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends avant d'occuper des fonctions. Celui qui n'apprend pas au bon moment apprendra plus tard à un prix élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, assieds-toi. Apprends. Une autre chose que j'aimerais dire en termes de formation, comme moyen de formation, Dieu se servira des hommes et des circonstances. Des circonstances difficiles. Si Dieu t'appelle à être un roi, il enverra auprès de toi un Jonathan. Les Jonathan n'entrent jamais dans notre vie en pour rien. 1 Samuel 18, versets 1 à 4, Jonathan entre comme par effraction dans la vie de David. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce sont les rabbins juifs qui enseignent cela. David était un petit villageois qui ne connaissait pas les us et les coutumes. Comment manger? Comment faire ceci? Comment? Et il rentre dans les palais royaux, il est dépaysé, il ne sait pas. Et Dieu attache une bonne personne. Seigneur, attache-moi aux bonnes personnes qui vont m'équiper. J'en ai assez de gens qui s'attachent à moi pour eux. Fais-moi attacher des gens qui viennent pour moi. Jonathan entre, il prend ce qu'il a de meilleur, il donne à David. Mais Dieu s'est servi aussi de Saül, avec sa dureté. avec sa méchanceté pour former les cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu place aussi David, comme nous l'avons lu dans 1 Samuel 22, verset 1 à 2, dans la caverne d'Adullam. Là, il dit tous ceux qui avaient des créances, tous ceux qui avaient des dettes. Il les a placés à ses côtés. Ça, c'était le deuxième niveau de la formation de David. Le premier niveau, c'était un niveau presque inconscient. J'aimerais dire, Dieu ne fait rien pour rien dans notre vie. C'est pas pour rien que David, presque comme une punition, on lui avait confié les troupeaux. Quand Dieu a laissé qu'on lui confie les troupeaux, Dieu visait deux choses. Dieu voulait faire de lui un père. Parce que, vous savez, un berger, ce ne sont pas les brebis qui réfléchissent où nous allons manger, où nous allons boire. Quand les brebis sont déposées à un endroit, ils se reposent, c'est les bergers qui restent en train de réfléchir. Je les ai amenés aujourd'hui brouter l'herbe ici, mais je veux que l'herbe n'ait plus de bonne qualité. Où je veux les amener demain? Ils réfléchissent pour des gens qui ne réfléchissent pas. Et Dieu dit, David, je sais que demain, beaucoup dépendront de toi. Quand eux, ils dormiront, j'aimerais que toi, tu réfléchisses à leur bonheur. Et j'aimerais inculquer ces réflexes en toi. Deuxième chose que Dieu voulait mettre dans David, c'est l'esprit des sacrifices. Lui-même dira, quand un ours venait, je fuyais, n'est-ce pas? Quand un lion venait, je m'enfuyais, n'est-ce pas? Je me tenais. J'aimerais que tu apprennes à te mettre en danger pour le bonheur des autres. Et quand Dieu sent que cette formation est acquise, Dieu dit, ok, j'aimerais être associé à des gens dont les noms se terminent par os. Kingotos, Bolokos, Yangolos, des gens sans foi ni loi. 400 hommes, sans loi ni foi. Quand ils les voyaient, eux-mêmes l'appelaient Davidos. Mais Dieu voulait les former. Et ce que j'aime, c'est que le leadership de David a joué. Parce que David a transformé ces hommes sans foi ni loi en vaillants hommes. Un vrai leadership, c'est un leadership transformateur. Qui te côtoie et qui devient meilleur? Qui te côtoie et devient différent? Ne peut devenir roi que celui qui a dirigé 400 hommes sans loi. Et quand Dieu voit aussi que cette formation, elle est acquise, Dieu lui donne non pas les 12 tribus, les 2 tribus. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas tout? L'humain peut se souvenir. Les gens sont étonnés aujourd'hui par notre qualité de leadership, mais ils ne savent pas que Dieu nous avait donné des cellules qui étaient presque des églises. Durant ces années, on ne comprenait pas, mais tout cela était une formation. Nous étions des pasteurs en miniature. Aujourd'hui, avec les recrues, j'ai dit, oh, nous sommes un bazar bouliste. Dieu, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il savait où nous amener. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait où il t'amène. Même ces situations difficiles par lesquelles tu es en train de passer, lui-même sait. Ces prières sans réponse, ces stress, ces maux de tête, lui sait. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire cette chose importante. Durant la formation, lorsque les choses semblent noires, lorsque les choses semblent nous échapper, et lorsque le doute vient s'inviter, Dieu fait toujours une chose, mais le plus souvent de deux manières. Il rappellera et renforcera la révélation en se servant des hommes et des circonstances. On lui a dit qu'il était roi, il est entré en formation, et dans la formation, il subit des choses impossibles. Et Dieu pose deux actes. Et je prie que dans les jours qui viennent, Dieu puisse poser ces deux actes pour toi. 1 Samuel 23, versets 16 à 17, dans les moments de doute, écoutez ce que ma Bible dit. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains point, la main de mon père ne te touchera pas et tu deviendras roi. Il dit même, mon père le sait bien. Donne-moi une parole au moment où je suis en train de douter. Donne-moi une parole au moment où je semble vouloir lâcher. Donne-moi une parole. Selon qu'il est dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Chaque fois que tu vois la parole de Dieu, sache que son action va suivre. Mais Dieu ne s'arrête pas là. J'aime ce passage de 2 Samuel 1, 10. David est à Tsikilag, un endroit où il souffre, un endroit où il est devenu un mercenaire des Philistins. Il a voulu même aller avec eux au combat. On l'a chassé, on l'a dit non. Est-ce que toi, tu peux nous accompagner pour aller combattre tes frères? Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il retrouve? Femmes, enfants ont été emmenés. Leur quartier général brûlé. Et la Bible dit, David et ses gens, ils levèrent la voix. Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ça, c'est pas tout. Les Philistins l'ont chassé, mais même ses proches ne veulent pas de lui. La Bible dit, tout ce qui est à côté de lui était dans l'abattement et dans la douleur, et il voulait tuer David. Seul. Et j'aime ce que ma Bible a moi dit. Je ne sais pas si on a les mêmes Bibles. David reprit confiance en s'appuyant sur l'Éternel. Ton problème, c'est que tu aimes trop être encouragé. Il y a des moments où ta source de courage doit être toi-même. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et il va et il combat les Amalécites et il retrouve femmes et enfants. Et alors qu'il est en train de digérer cette victoire, il voit un jeune homme venir. Qu'est-ce qu'il a en main? Deux choses. Le diadème de Saül et le bracelet. Vous savez, la royauté en Israël était symbolisée par trois choses. Trône, diadème et bracelet. Si tu vois Dieu t'amener les diadèmes et les bracelets, sache qu'il te donnera aussi les trônes. Et ce que j'aime qui est merveilleux, c'est que David n'est pas allé chercher cela. Quand Saül est mort, ce jeune homme aurait pu prendre ça, garder. Il aurait pu amener ça ailleurs, mais c'était comme un clin d'œil de Dieu pour dire, cette chose, elle est à toi. Il en faut trois, mais je te donne deux. J'aimerais dire, Seigneur, ce soir, donne à quelqu'un un diadème. Donne à quelqu'un un bracelet, afin qu'il se dise, celui qui me donne le diadème et le bracelet me donnera aussi le trône. Il va le faire. Quand tu as reçu le diadème et le bracelet, relève la tête. Mon professeur de droit constitutionnel disait une phrase en matière de révision constitutionnelle, il disait qui peut le plus, peut le moins. Celui qui a fait le plus, qui a donné deux choses, qu'est-ce qui lui manque de faire la seule chose qui reste? J'aimerais dire à quelqu'un, il le fera pour toi. Troisième point de la forme dans le parcours du roi, c'est l'accomplissement. Dans l'accomplissement, la révélation devient une réalité. Dans l'accomplissement, les ainsi dit l'Éternel devient ainsi fait l'Éternel. Et je prie que Dieu aide quelqu'un qui est dans son parcours à quitter les ainsi dit pour expérimenter les ainsi fait. 2 Samuel 5, verset 3 parle de quelque chose de merveilleux. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux. Ils joignirent David pour roi. Il n'est pas allé les chercher. Quand le temps de Dieu arrive, lui-même provoque les circonstances. David croit rêver. C'est pourquoi il s'est battu des années. Eux-mêmes viennent. Il dit, même quand Saül était notre roi, c'est toi qui sortais, qui rentrais avec nous. Ah bon, vous le saviez déjà. Mais pourquoi vous n'aviez pas précipité cela? Accomplissement. J'aime quand ce jour-là, on est venu chercher David à Hébron. On est venu lui dire, tu dois monter à Jérusalem. Ah, je peux m'imaginer le voyage. Quand il entre dans Jérusalem, qu'il a quitté depuis 13 ans, il croit rêver. Il dit, où est-ce qu'on vous allez m'amener? On dit, au palais royal. Il a les diadèmes. Il a les bracelets. Il va rejoindre les derniers éléments. Quand ils entrent dans la ville, ils voient le palais royal. Et puis au loin, ils voient les trônes. Son cœur se met à battre à la chamade. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et puis au loin, il a vu ses trônes. Et puis, les kilomètres sont devenus des mètres, des mètres, des centimètres. Et puis enfin, les trônes étaient là. Et puis il s'est assis. Enfin. Seigneur, aide quelqu'un dans les jours qui viennent à dire, enfin. Je l'ai eu. Enfin, combien ça fait du bien de voir son rêve devenir réalité. Combien ça fait du bien de voir la prophétie devenir quelque chose qui l'on palpe. Combien ça fait du bien, Canaan qui était une parole, devenir un sol que tu touches. Je prie que Dieu te l'accorde dans les jours qui viennent. Et David est devenu celui que Dieu voulait. Et David a commencé à accomplir la volonté de Dieu. Ce merveilleux passage que nous avons lu de 2 Samuel 8, 15 dit, David régna sur Israël et il faisait droit et justice. Il a accompli ce pourquoi Dieu l'a appelé. J'aimerais dire une chose importante, très importante. Chaque fois que Dieu nous amène à l'accomplissement, nous devons nous souvenir de la révélation du début. Qu'il y ait des gens qui deviennent ceux et celles que Dieu avait dit et qui oublient le pourquoi Dieu les a amenés là. Je préparais ce message ce matin, je priais. Je pensais à mon jeune frère, votre pasteur, et moi-même. Je pensais à plusieurs de notre génération. Nous avions bien tous commencé la course. Certains sont tombés. Certains avaient des atouts plus grands. À l'époque, quand on nous mettait à leur côté, on pouvait dire, il n'y a pas match. Quand je pars au Canada, qu'est-ce qu'on me dit du bien du pasteur Lumande? Je suis allé dernièrement à Goma. Toute la ville me parle de lui. Et ce matin, je disais, Seigneur, pourquoi tu nous as amenés jusque-là? Pourquoi toutes ces portes ouvertes pour nous? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi? Quand l'accomplissement arrive, n'oublie jamais le pourquoi. Car Dieu est jaloux de ses buts. Dieu est jaloux de ses objectifs. Une jeune dame qui est parvenue au niveau de l'accomplissement a failli perdre cela. Et dans Esther 4, verset 14, Mardoché lui dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Quand je regarde, je dis, il y a 15 ans en arrière, je n'étais rien. On citait les hommes de Dieu à Kinshasa, on ne pouvait pas citer Roland Dahl. Mais aujourd'hui, on fait mention de moi. Seigneur, pourquoi tu m'as fait parvenir là? Je commençais une série de réunions il y a 2 ans à Kinshasa, où je voyais plusieurs hommes de Dieu venir vers moi pour être enseignés. Et puis j'ai dit non, au lieu qu'ils viennent un an, je crée un cadre que j'appelle le fer aiguise le fer. La première réunion, ils étaient à 50. La deuxième à 70. C'est une réunion qu'on a chaque fois. Une fois les mois, une fois. Toute la première année, on est arrivé à 350. Mais depuis le début de l'année passée, notre 7e réunion, on était à 1300. La dernière réunion, on était à 1800. Et quand je suis là, je dis, Seigneur, pourquoi moi? La semaine passée, jeudi, vendredi, samedi, j'ai organisé à Kinshasa une série de réunions que j'organise depuis 3 ans et demi. Le pasteur Noéla et sa femme ont eu à assister une fois. Réveiller les héros. Où je m'adresse aux hommes. Je me suis rendu compte que dans notre ville, à Kinshasa, il y a beaucoup de réunions des femmes. Convention des femmes, retraite de jeunes gens, camp biblique des petits-enfants, mais très peu de choses sont faites pour les hommes. Et j'ai lancé ça la première année, on avait 3500 hommes. La deuxième année, plus de 4000. Et cette année, on avait plus de 9000 personnes. Je voyais cette salle du centenaire remplie. Je me disais moi-même, Seigneur, pourquoi cette confiance? Pas trop de publicité, à peine 2 ou 3 émissions. Et puis voilà ces gens qui viennent. Et Dieu me disait, Roland, que tes épaules ne montent pas. Sache que c'est moi qui attire ces gens et atteins mes buts et mes objectifs. Chaque fois que Dieu prend un berger et il en fait un roi, les rois doivent se souvenir pourquoi il m'a amené là. Si tu oublies les buts de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Mais en terminant, je ne peux m'empêcher de faire part de cet avertissement. C'est à l'enfant que Dieu a parlé de la royauté. J'aimerais que les musiciens s'avancent parce que tout à l'heure, j'aimerais qu'on se replonge dans la prière. Je voudrais dire comme tout à l'heure, comme les hommes de Dieu, y a-t-il un joueur de harpe ici qui nous conduise tel que Dieu va les conduire? Et comme je dis, je termine avec cet avertissement. Certes, c'est à l'enfant que Dieu parle des royautés. C'est partant de l'enfant que Dieu fabrique les rois. Mais lorsque l'on devient roi, il faut tuer l'enfant. J'aimerais le répéter encore. C'est à l'enfant que Dieu parle de la royauté. C'est de l'enfant que Dieu part pour fabriquer les rois. Mais quand on devient roi, il faut tuer l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu deviens roi et que tu ne tues pas l'enfant, l'enfant va tuer la royauté. Il est bon que le roi qui sommeille dans l'enfant, quand le roi grandit, que le roi élimine l'enfant. David, il est devenu le roi partant de l'enfant, mais lorsqu'il est devenu roi, il a laissé l'enfant grandir en lui. Regardez, permettez-moi les termes, les bêtises qu'il fait, les mauvaises choses que David accomplit. Dans Samuel 11, du premier verset au verset 27. Un roi enfantin. En Corinthiens chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul parle de l'enfant. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et j'ai raisonné comme un enfant. Il parle de trois choses qui caractérisent l'enfant. Sa façon de penser, son jugement, sa conception des choses. Mais deuxièmement, son raisonnement, c'est-à-dire les liens qu'il fait entre les choses. L'enfant ne réfléchit pas trop. L'enfant souvent ne voit pas les dangers. Il ne voit que les bénéfices apparents. Un petit enfant qui a une année et demie, deux ans, il voit cette chose qui brille, il ne sait pas que c'est le feu. Que je touche cette chose qui brille. Elle est fantastique. Mauvais jugement, mauvais raisonnement. Il ne dit pas ce que je veux faire va m'amener où. Il est roi, mais il a laissé l'enfant. Il voit la femme d'autrui. Il ne pense qu'à l'intérêt, entre guillemets. David, tu ne te dis pas ce que je veux faire, voilà ce que ça peut amener. Il ne voit que les formes de cette femme. Waouh! Ah! Ah, qu'est-ce qu'elle est fantastique. David, c'est la femme d'autrui. D'un de tes lieutenants, enfant, ça n'existe pas dans son cœur. Et puis les voilà. Il va avec la femme. Et puis la femme vient lui dire, je suis enceinte. Enfant. Il pense à des solutions sans réfléchir. Je vais l'enivrer. Et ça ne marche pas. Je vais le faire tuer. Enfant. Si le roi ne détruit pas l'enfant, l'enfant détruira le roi. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais j'aime ce qu'il dit. Lorsque je suis devenu homme, il dit, je fais disparaître. Il ne dit pas qu'il a disparu. Je l'ai fait disparaître. Moi-même, j'ai pris des choses enfantines. J'ai dit, vu ce que je suis devenu, ça ne doit plus exister. J'en ai parlé une fois ici. Au mois de mars prochain, j'aurai 50 ans. Quand je grandissais, j'avais des petits plaisirs. Ces petits plaisirs, c'est d'avoir dans ma poche gauche des cacahuètes. Et dans ma poche, de l'autre côté, du pain. Manger ça comme ça, normalement, ça n'avait pas un goût. J'aimais bien en marchant, je prends une partie, j'ai. Et des fois, on le faisait entre amis. On marchait, je coupe. C'est un plaisir. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Malgré mes 49 ans, de temps en temps, j'ai envie de ça. Mais j'ai dit, je suis devenu un roi. Je dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Il y a des choses que le roi ne doit plus faire. Sinon, il tuera les rois. Je lance ces trois appels et je ne demande à personne de s'élever. Tu vas simplement dans la position qui te semble la meilleure. Réagir à ces messages. Ce soir, quelqu'un est devenu roi. Mais il constate qu'il y a beaucoup de choses enfantines en lui. Qui risque d'empoisonner la royauté, pleure devant Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as amené à la royauté, mais il y a des choses de l'enfant. Des choses de l'enfant que les gens ne voient pas. Tu es ce grand responsable que les gens aiment, que les gens apprécient, mais esclave de la pornographie par Internet. Tu es cet homme que les gens respectent, mais quelles sont tes lectures? Quelles sont les choses que tu regardes? Tue l'enfant! Il y a quelqu'un ce soir qui doit dire, je suis roi, mais il y a de l'enfant en moi. Deuxième chose que j'aimerais que vous et moi nous puissions en faire sujet de prière. Il y a quelqu'un qui avait reçu la révélation de Dieu et qui est en train d'expérimenter l'accomplissement. Alors toi ce soir, lève les mains et dis merci au Seigneur. Toi qui es passé de la révélation, la formation est passée et tu as atteint un niveau de jouissance, dis à Dieu, Seigneur, merci. Tu m'as amené où je suis. Troisième appel, quelqu'un qui avait reçu une révélation et qui passe par une formation dure, interminable, et qui a presque besoin de vouloir lâcher. J'aimerais te dire, le Dieu qui parle par la bouche de Jonathan peut te parler. Le Dieu qui amène les diadèmes et les bracelets peut te parler. Mais ce soir aussi, il y a quelqu'un qui a besoin d'une révélation. Il y a un berger ce soir qui doit poser la question à Dieu. Dis-moi, qui suis-je? Joueur de harpe, conduis-nous. Debout, assis, à genoux, couché, parle à Dieu.
Adieu.